France Inter.
Bonjour. Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les dieux ont laissé beaucoup de traces de leur passage, et pas des moindres. En Grèce, et dans les pays grecs tout autour de la Méditerranée et jusqu'à la mer Noire. Ces traces sont visibles un peu partout, bien matérielles. Elles ne viennent pas des dieux directement, mais des humains. Ceux qui, autrefois, ont tenu avec ferveur à accueillir les dieux chez eux, sur leur terre, à leur donner une maison, à construire des grandes tables de pierre pour leur offrir une nourriture qui leur plaise, à leur dresser des images qui soient dignes d'eux. Cette ferveur a laissé partout des vestiges qui ont plus ou moins résisté au temps. Restes de temples, de lieux de sacrifice, sculptures, images, objets rituels, et aussi des paysages, des manières dont était implantée, organisée une ville. Les dieux se manifestaient aussi par là.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
La ville d'Athènes a été construite, disposée, pour montrer que sa population, les Athéniens, était née de la terre athénienne, de la déesse terre, pour montrer qu'elle était autochtone. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de me promener avec des copains en plein cœur d'Athènes, l'Athènes antique. L'actuelle n'est pas mal non plus, très vivante, nettement plus, variée, pleine d'inventions, de couleurs et surtout debout. Nous avions décidé de rôder tôt le matin, dans ce lieu clair, ouvert, cerné de collines, qu'était l'Agora, à savoir la grande place publique où les Athéniens se retrouvaient pour faire de la politique, faire du commerce, prier leurs dieux, vénérer leurs héros fondateurs. Un espace libre, dégagé, où ils se mettaient en scène dans leurs activités favorites. Le mot « Agora » contient l'idée de rassemblement, d'assemblée. C'est le lieu public où l'on se retrouve, où l'on échange. Le mot pouvait prendre le sens de « marché ». C'est aussi le lieu où l'on parle, lieu de la communication. Le verbe « agoreuen » signifiait « discuter, parler ». L'agora d'Athènes est un vrai décor de théâtre. L'Athènes terrestre, autochtone, intimement liée à sa terre, dont elle se disait l'enfant, se donnait là en spectacle, splendide, protectrice, rassurante. Cette agora, cette grande place et ses bâtiments, est au centre d'un creux majestueux, d'une immense conque terrestre qui remonte vers trois collines qui l'abordent au sud. Au-delà, il y a la mer, infinie, les ports du Pirée, d'où Athènes a tant de fois fait partir des masses de bateaux qui l'ont défendue et qui ont longtemps dominé la Méditerranée. La mer, depuis cette conque terrienne, depuis cette paume ouverte, on ne la voit pas, elle est au sud, de l'autre côté des collines, loin, tenue à distance, comme chassée de ce paysage de terre ample et bien délimité.
Si Rome nous a légué la langue et le droit, si Jérusalem garde la mémoire de nos racines célestes, Athènes nous rappelle que nous sommes des Grecs, par les idéaux qui constituent le fondement du monde moderne. Ce miracle grec se concentre dans un lieu mythique bien localisé, l'Acropole, et s'incarne dans un édifice archétypal, le Parthénon. Le message athénien a traversé les temps, et les Grecs du siècle de Périclès nous apparaissent aussi proches que les encyclopédistes du XVIIIe siècle, et plus proches que les contemporains de la cathédrale et de la croisade.
Les trois collines qui couronnent le paysage sont très différentes les unes des autres, trois visages de l'Athènes terrestre. De gauche à droite, en regardant vers le sud depuis l'Agora, il y a, abrupte, bien carré, géométrique, la citadelle de l'Acropole, altitude 156 mètres, avec ses temples de marbre nets, grandioses, dressés autour du temple d'Athéna, le Parthénon qui domine. Sa restauration est presque finie, il reste encore une grue. La colline de l'Acropole est un mélange de nature brute, avec des falaises et des grottes, comme celle du dieu Pan, où le dieu Apollon a eu son aventure indélicate avec la jeune Créoussa. et de travail humain, murs vertigineux, architecture osée, très savante. L'acropole concentre toute l'histoire mythique d'Athènes, de ses origines, de sa richesse. Le Parthénon servait en fait à entreposer de l'argent public. Ce n'était pas un lieu de prière. Sur l'acropole brillait très haute la statue dorée d'Athéna, que l'on pouvait voir depuis la mer. Lumineux, bien visible, c'était aussi un lieu sombre. Dans des fosses profondes, on jetait des viandes de porc qu'on laissait pourrir pendant un an. Des jeunes filles, appelées des puiseuses, devaient descendre et les récupérer. C'était un culte pour la déesse Déméter. Juste à côté, vers la droite, quand on regarde depuis l'agora, il y a tout près une colline sauvage, couverte seulement de végétation, de rochers, c'est tout. Un fort contraste avec les audaces architecturales de l'acropole. Il n'y avait presque rien sur cette colline où la nature semble être laissée à elle-même. Or, ce lieu était essentiel pour la vie politique d'Athènes. La colline est l'aréopage, la colline Tarès, altitude 115 mètres. C'est là que se tenait, sur des installations sommaires, le tribunal qui, à Athènes, jugeait les affaires criminelles les plus graves, les crimes de sang. Cette colline s'appelle colline d'Arès, aréopage, et non pas aéropage. Parce que le dieu Arès fut jugé là pour un crime de sang. C'était le premier jugement rendu en ce lieu. Zeus a institué ce tribunal de l'aréopage pour juger son fils Arès, le bouillant dieu de la guerre. Arès avait mis à mort le jeune Allyrotios, un fils mortel de Poséidon et d'une nymphe. Allyrotios est un nom bien marin. Il signifie « qui gronde comme la mer ». Ce jeune homme avait abusé d'une fille d'Arès, nommée Alcippe. Arès le tua, et Poséidon, furieux, s'en prit au meurtrier de son fils. Pour régler cette querelle entre dieux, Zeus créa un tribunal.
Il y a en effet un tribunal sacré que Zeus a autrefois bâti pour Arès, à la suite d'une souillure qui polluait ses mains.
Les dieux de l'Olympe furent convoqués pour former le jury et ils acquittèrent Arès, sans doute en lui imposant de servir chez un mortel pendant un an. On dit aussi que c'est sur cette colline que le jeune Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, a été jugé parce qu'il avait tué sa mère Clytemnestre. Le parricide est l'une des formes les plus virulentes du désordre quand la famille se retourne contre elle-même. Oreste, selon les légendes, aurait été jugé ou bien par des citoyens d'Athènes, ou bien par les 12 dieux de l'Olympe. Contre lui, il avait les Erinni, les redoutables, sanguinaires et baveuses divinités de la vengeance coiffées de serpents.
Ta mère, d'abord, est-il vrai que tu l'as tuée ?
Je l'ai tuée. Je n'irai pas le nier. Et jusqu'ici, je ne reproche pas mon sort. En tuant son époux, elle a tué mon père.
Assassin, renie-tu le sang maternel, le plus cher.
Elle voulait venger sa mère en buvant le sang d'Oreste. Elles étaient terrifiantes. Oreste a été acquitté, mais les Erinni sont restés à Athènes. La ville leur a confié une fonction régulière, terrifiante. Elles furent chargées de faire peur aux citoyens et de les inciter à respecter les lois.
Ni anarchie, ni despotisme. Telle est la règle que je conseille aux citoyens de défendre et de respecter, et de ne pas bannir toute terreur de la cité. Car sans terreur, quel mortel serait juste ? Ce conseil respectable, respectez-le dans la justice, et il sera pour vous salut de la cité.
Il y avait dans un creux de l'acropole, juste à côté de l'aréopage, un culte rendu à des divinités qui effrayaient. On les appelait les divinités redoutables, les Semnai Theai. Elles étaient censées peser par la crainte qu'elles inspiraient sur les décisions de l'aréopage. On dit parfois que ces divinités étaient les Erinni, établies à Athènes. On dit aussi que d'autres femmes redoutables, les Amazones, se sont un temps installées sur la colline de l'aréopage pour attaquer la ville d'Athènes et son roi d'alors, le roi Thésée. Elles avaient transformé la colline en véritable cité des femmes, avec des remparts, juste en face des murs et des temples d'Athéna.
Ce monde Arès fut le séjour des Amazones et leur campement quand elles vinrent par malveillance contre Thésée avec leur armée. Face à notre ville, elles firent une nouvelle ville munie de hauts murs face à nos murs. Et elles sacrifiaient à Arès. De là tire son nom le rocher, le mont voué à Arès.
Les Amazones ont été battues dans une guerre que les légendes présentent comme fondatrice pour Athènes. Ce serait le premier grand exploit accompli par les Athéniens, victorieux. Il ne reste rien de la ville des Amazones, sauf le souvenir traumatisant d'une invasion par des femmes. La colline sauvage de l'Aréopage accueille la sauvagerie, surtout féminine, Érinie, Amazone. Mais elle la dompte et l'utilise. Un peu plus à droite, il y a la troisième colline. La colline de la Pnyx, altitude 100 mètres. Sans grand-chose dessus, un grand espace. C'est là que se tenait, tourné vers la ville, vers l'agora, l'assemblée des citoyens, c'est-à-dire des hommes libres, que des hommes. On l'a calculé qu'il pouvait être 5000, assis à même le sol, face à une tribune. 5000, c'est en fait peu par rapport au nombre total de citoyens à Athènes, qui était autour de 60 000. Pendant la période démocratique, les grandes décisions politiques se prenaient par les votes de cette assemblée. L'Acropole, colline des temples autour d'Athéna, lieu où aboutissait, passant par l'Agora, le grand cortège de fêtes en l'honneur de la déesse. L'Aréopage, colline des procès criminels. La Pnyx, colline de l'Assemblée populaire. La cité pouvait contempler là trois de ses principales fonctions bien visibles, spectaculairement réalisées.
Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets orange tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Si d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe nous raconte une promenade avec des amis dans les ruines de l'Agora d'Athènes.
En bas, face à ces collines, l'Agora, le lieu de la vie publique quotidienne, normale.
John Camp, archéologue.
Ici, nous sommes sur la plus grande route d'ancienne Athènes. Il venait de la porte principale, il passait par l'Agora jusqu'à l'Acropole. En 1931, on a détruit à peu près 350 bâtiments modernes. Et après, on a fouillé 5, 7 mètres jusqu'au niveau antique.
Pour atteindre le cœur de la démocratie athénienne.
Exactement, pour voir la place de tous les bâtiments de la démocratie.
Il n'en reste que des ruines peu élevées, à ras du sol. Elles ne sont pas spectaculaires, contrairement à celles de l'Acropole. La plaine de l'Agora a été habitée pendant des siècles. C'était un quartier de ville, et les Athéniens se sont servis des pierres des bâtiments anciens. À la fin du 19e siècle et au 20e, les maisons ont été détruites. Les habitants ont été déplacés pour que des fouilles puissent dégager ce qui, sous ces maisons, restait de l'agora antique. Ce sont, si on peut dire, des ruines modernes, qui n'ont pas subi le lent cours du temps. Elles sont apparues d'un seul coup, bien lisibles, comme une écriture sur le sol. Les archéologues reconnaissent ces différents lieux, dont il ne reste que la base. Des temples, la salle du conseil, l'habitat du magistrat principal, l'archonte roi, élu pour un an, qui était abrité par un grand portique peint de fresques, qui ont disparu. Le lieu, une rotonde, où l'on pouvait consulter les autres magistrats. Un lieu de culte pour les 12 dieux. Bien visible, il y avait les statues de deux jeunes gens, deux libérateurs, Harmodios et Aristogiton, qui lors d'une cérémonie avaient assassiné à coups de poignard Hipparque, le fils de Pisistrate, le tyran qui régnait alors sur Athènes. L'acte de ces deux tyrannicides a ouvert la voie à l'instauration laborieuse de la démocratie. Et, bien alignés, mais aujourd'hui perdus, on voyait sur l'agora les statues des 10 héros qui étaient censés être les héros originaires de la cité. Ces héros ont donné leur nom aux 10 tribus qui constituaient le peuple d'Athènes. Parmi ces héros, on retrouve de vrais autochtones, des enfants de la terre, comme Érechthée, Kécrops, que nous avons déjà croisé. On trouve aussi un héros plus récent, bien connu, qui est né de parents humains sur l'île de Salamine, Ajax. Un temple s'élève à l'ouest de ces ruines, sur une petite hauteur, un temple spectaculaire, dédié à Héphaïstos, le dieu forgeron. À ce sanctuaire était aussi associé un culte d'Athéna. Ce temple, construit au 5e siècle avant notre ère, est exceptionnel. Il est bien debout, quasi intact. On a même une partie de son plafond et de son toit. Construit en calcaire, pierre nettement moins précieuse que le marbre, il n'a pas été dévasté. Il n'a pas servi de carrière pour des bâtiments plus récents. Il est resté debout, très impressionnant. Héphaïstos, Athéna, nous allons bientôt retrouver ce couple divin qui fut à l'origine de l'autochtonie d'Athènes. L'installation de l'agora d'Athènes, de la place centrale de la ville, sur ce lieu creux, humide, il fallait le drainer par tout un système de canalisation en bas des collines, est venue d'une décision politique. C'est une création artificielle liée à un changement de régime. Quand les Athéniens se sont débarrassés de leur tyran à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, ils ont entamé un processus politique, administratif, religieux, qui les menait vers la démocratie. Un grand réformateur nommé Clisthène a pris en main cette transformation radicale. Clisthène a fait place nette. Il y avait déjà une agora d'Athènes. Il l'a déplacée pour construire ce grand lieu théâtral où le nouvel ordre politique de la cité devait être bien visible, tangible. Pour cela, il a évacué d'anciennes tombes, relégué la périphérie. Il a organisé l'espace. Pour lutter contre les anciennes grandes familles d'aristocrates qui prétendaient continuer à gérer la cité, ce Clisthène n'y est pas allé de main morte. Il a divisé l'ensemble du peuple en 10 tribus qu'il faisait chaque fois dépendre d'un grand ancêtre héroïque. Le but était de faire participer tous les citoyens, comme nous l'apprend Aristote, le philosophe.
Une fois à la tête de la multitude, 3 ans après la chute de la tyrannie, Clisthène commença par répartir toute la population en 10 tribus au lieu de 4, car il voulait opérer un brassage afin de faire participer plus de monde à la vie politique.
Clisthène a demandé directement à l'Apollon de Delphes quel héros du passé il devait choisir pour donner un nom à chacune de ses nouvelles tribus. On peut penser qu'il a suggéré à la Pythie de Delphes les réponses qu'il souhaitait. Dans sa liste, il n'a choisi que des héros locaux du pays athénien. Et il a mêlé des héros autochtones du passé et un héros plus nouveau, Ajax de Salamine. Il faut dire que les Athéniens venaient de s'approprier l'île de Salamine, en face d'Athènes. Le nouveau et l'ancien étaient ainsi mêlés. Les statues des 10 héros fondateurs étaient au cœur de l'agora. Les vieilles familles se gargarisaient de leur origine, des héros ou des dieux qui étaient leurs ancêtres lointains. Clisthène et ses partisans leur opposer que tout le monde, à Athènes, avait de grands ancêtres. Ce n'est pas le passé qui devait régner, mais la cohérence de la cité, et pour cela primer son organisation spatiale sur l'ensemble du territoire. Chacune des 10 tribus, avec chacune son grand héros fondateur, avait en charge 3 circonscriptions. Une zone urbaine dans la ville, une zone de bord de mer et une zone de l'intérieur des terres. Les zones ont été également réparties entre les tribus par tirage au sort. Tous les aspects de la vie courante, de l'économie, étaient ainsi rassemblés dans une tribu. Et toutes les tribus étaient égales entre elles. La nouvelle agora rassemblait cette diversité en un même lieu. La tradition, l'autochtonie, ont été respectées par ces chamboulements. Elles sont présentes dans les lieux, dans les monuments, mais elles sont refaites, déplacées, recomposées. L'origine, ça se bouge, ça se déménage. Le passé est à la disposition des citoyens qui décident librement. Cet espace de l'agora était très bien délimité, très clairement. On a retrouvé au coin sud-ouest de l'agora une pierre, dressée verticalement, qui porte l'inscription « Je suis la limite de l'agora ». À l'époque, les pierres et les statues pouvaient parler à la première personne. Limite se disait Horos, que l'on retrouve dans notre horizon. Juste au bord de cette borne et à l'extérieur de l'agora, des archéologues ont fait une découverte émouvante. Dans les murs qui jouxtent la pierre, ils ont pu identifier la boutique d'un cordonnier, en fait très connu dans l'Antiquité, la boutique d'un dénommé Simon, Simone. Une petite boutique qui était assurément celle d'un cordonnier, car on a retrouvé des clous de chaussures et des œillets en os pour faire passer les lacets. Par ailleurs, sur le fond noir d'une coupe était écrit en graffiti le nom de ce Simon. Or, avant cette découverte, ce Simon, si c'est bien lui, avait déjà sa gloire. Mais on ne savait pas s'il avait réellement existé, et là, on voit où il travaillait. Sa boutique au bord de l'agora était célèbre. Des textes anciens nous disent que Socrate venait discuter avec lui. Simon aurait noté tout ce que disait Socrate.
Simon d'Athènes, cordonnier. Quand Socrate venait dans son échoppe et discutait sur un sujet quelconque, il prenait en note tout ce dont il se souvenait. C'est pourquoi on appelle ces dialogues des dialogues de cordonnerie. C'est lui qui, le premier, dit-on, pratiqua les dialogues à la manière socratique.
Ces dialogues, s'ils ont existé, n'existent plus. Périclès, le chef politique, fréquentait aussi la boutique atelier de ce Simon. Il aimait la discussion avec lui. Un jour, Périclès proposa à Simon de le suivre en politique. Simon refusa.
Quand Périclès lui offrit de pourvoir à son entretien et lui demanda de venir auprès de lui, il répondit qu'il ne vendrait pas sa liberté de parole.
La philosophie, comme la cordonnerie, se pratique en dehors de l'espace politique qu'est l'agora. Elles sont juste au bord, mais à l'extérieur. Chez Simon, on parle politique, mais pas pour agir sur la cité, pas pour briguer des postes. On se demande ce que c'est la politique. Pas question de se laisser embarquer par un leader. Comme les jeunes gens n'étaient pas autorisés à entrer dans l'agora, Socrate, pour qui la philosophie, comme le fait de porter des chaussures, ne connaît pas de limite d'âge ou de genre ou de condition, pouvait philosopher chez Simon avec eux et faire école. Les Grecs anciens adoraient raisonner en termes de frontières, d'espaces, de distinctions. La cité était bien organisée.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these 3 words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December. gentlemen but whenever we're together, babe, whether I'm scared it's you.
Pierre Judet de la Combe évoque les efforts des Athéniens pour associer terre et mer dans leur mythe d'origine.
La mer qui sera l'immense terrain de jeu des Athéniens, leur champ de bataille et leur empire. Elle n'a quasiment pas de place dans ce paysage de terre. Comment l'intégrer à la ville? Quelle place lui donner dans le mythe, dans l'imagination, dans l'espace? Elle qui a fait la grandeur d'Athènes. Il faut être patient. Il faut monter vers l'acropole en suivant la voie sacrée qui, en passant par l'agora, conduit les grands cortèges en l'honneur d'Athéna vers son autel en haut de la colline. Là, sur l'acropole, il y a un temple très bizarre qui ne ressemble à aucun temple. C'est celui avec les fameuses cariatides qu'on appelle l'Erechtheion. Il est fait de plusieurs temples juxtaposés. C'est très étrange. L'un est le sanctuaire du héros Erechthé, né de la terre. Un autre est dédié au dieu marin, Poséidon. Ils sont en compagnie d'Athéna. Erechthé et Poséidon sont à la fois adversaires et très liés. Avec son trident de pêcheur, Poséidon a tué et englouti dans la terre Erechthé, qui était le roi d'Athènes. Parce que dans une guerre, Erechthé avait tué un fils de Poséidon, Eumolpos. Furieux, le dieu de la mer a frappé Erechthé, qui a disparu dans le sol. L'autochtone est revenu à la terre qui était son origine. Les deux adversaires sont célébrés ensemble, intimement liés. Le temple a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand il a fallu refaire les monuments de l'acropole qui avaient été ravagés par l'armée perse de Xerxès. Cette armée s'était emparée de la ville et l'avait incendiée. Quand ils ont construit le temple, les Athéniens ont voulu faire mémoire du coup porté par Poséidon. Ils ont laissé une partie du toit ouverte, de manière que le trident de Poséidon puisse passer et frapper Erechthé, comme si Poséidon pouvait encore frapper. Le mythe n'est donc pas seulement du passé. Il est un événement qui dure toujours, toujours présent. Mais comment en est-on arrivé là? Comment Poséidon est-il entré en scène? On se souvient qu'il s'était fortement querellé avec les Athéniens et avec Athéna. Il avait fait jaillir, toujours avec son trident, au même lieu sur l'acropole, une mer d'eau salée. Il offrait ainsi aux Athéniens la maîtrise des mers, si en échange, les Athéniens lui offraient la souveraineté sur leur ville. Mais les Athéniens lui avaient préféré Athéna, qui avait fait pousser sur l'acropole un olivier, l'arbre toujours vert qui fait vivre. Poséidon s'était fâché. Il fallait se raccommoder avec lui si on voulait maîtriser la mer. C'est le mythe d'Erechthé, passablement tordu comme tant de mythes. Ça nous mettra loin du calme et de l'harmonie du paysage athénien parcouru le matin. Cette histoire commence avec la naissance du grand héros Erechthonios, le premier roi d'Athènes. Un enfant de la terre, bien autochtone. Cet Erechthonios est parfois confondu avec Erechthé. Les anciens ont pu se mélanger les pinceaux. On suivra prudemment la version simple qui fait d'Erechthé le futur adversaire de Poséidon, un descendant de cet Erichthonios. C'est déjà assez compliqué comme ça. La naissance de cet Erichthonios, ancêtre, père ou grand-père d'Érechthée l'Athénien, est plutôt comique. Héphaïstos, le dieu forgeron, artiste génialissime, mais affreux, estropié, était marié avec la sublime Aphrodite. Drôle d'idée. Mais il y a bien un lien entre les deux. L'artiste produisait des objets qui avaient la beauté de son épouse. Héphaïstos n'arrêtait pas d'être cocufié par sa femme. Elle le quitte. Il cherche son plaisir du côté d'Athéna. Il pensait avoir des droits sur elle. Après tout, c'est lui l'artisan qui d'un coup de hache dans le crâne de Zeus a fait sortir Athéna toute armée de ce crâne. Un jour, Athéna, qui avait besoin de nouvelles armes, va voir Héphaïstos dans son atelier. Le désir le prend, ce qui n'était pas très malin. Athéna s'est voulu toujours et résolument vierge. Elle s'enfuit, il court après elle. Il la rejoint sur l'acropole, l'union se fait presque, mais Athéna se dérobe. Et la semence du dieu impatient s'envole et atterrit, si l'on peut dire, sur la cuisse de la déesse. Athéna s'essuie avec un flocon de laine et jette ce flocon au sol. Ce geste a eu de grandes conséquences. Le flocon de laine est actif, efficace. La semence d'Héphaïstos qu'il contenait féconde la terre où elle a abouti. Un enfant vient à naître. Il ne naît pas avec un corps d'adulte, comme tant d'autres héros nés de la terre, mais avec un corps d'enfant. Comme on le voit, pour les anciens, la plupart comptent d'abord dans une naissance, la semence mâle. Le corps féminin n'est pas censé produire une semence. Il est d'abord un réceptacle, une maison accueillante et nourricière. Heureusement, des gens avisés comme le philosophe Empédocle ou le poète Échille mettront de l'ordre dans tout cela et reconnaîtront l'existence d'une semence féminine. La terre, la déesse Gaïa, confie l'enfant qu'elle a mis au monde à Athéna, qui l'accepte. Elle devient mère adoptive, n'ayant pas été mère naturelle. Athéna nomme l'enfant Erichthonios, ce qui veut dire le trait terrestre. On reconnaît dans la partie chthonios du nom le mot chthone, la terre, le sol. Quant à Eri, c'est un préfixe courant qui note l'intensité. Erichthonios est le trait terrien. Mais les anciens ont aimé jouer avec ce mot. Dans Eri, ils ont aussi entendu Erion, la laine qui a servi de véhicule involontaire à la semence du dieu. D'autres ont entendu Eris, la querelle. L'autochtonie est donc le mieux d'une union sexuelle ratée. On peut imaginer mieux, le mythe se marre. Athéna prend soin du nouveau-né. Elle le couche dans une corbeille où elle installe autour de lui un serpent, l'animal terrestre par excellence, en rapport avec cette naissance. L'animal devrait écarter toute menace. Elle ferme la corbeille et confie sa garde à la fille de celui qui alors régnait sur Athènes, un homme qui était à la fois homme et serpent. Il s'appelait Kécrops. C'est lui qui avait arbitré autrefois le conflit entre Athéna et Poséidon pour la domination d'Athènes. Il avait choisi Athéna. Un érudit ancien, spécialiste des mythes, raconte.
Athéna éleva Erichthonios à l'insu des autres dieux, parce qu'elle voulait le rendre immortel. Après l'avoir déposé dans un panier, elle le confia à Pandrossos, fille de Kécrops, en lui interdisant d'ouvrir le panier. Mais les sœurs de Pandrossos l'ouvrirent par curiosité et virent un serpent enroulé à côté du nouveau-né. Alors, racontent certains, elles furent tuées par le serpent lui-même ou, selon d'autres, elles furent prises de folie à cause de la colère d'Athéna et se précipitèrent du haut de l'acropole.
Erichthonios ne sera pas immortel. Il est élevé par Athéna dans son temple. Adulte, il dresse une statue de bois pour sa mère adoptive et institue en son honneur la grande fête des Panathénées. Il fonde une lignée humaine qui aura affaire au dieu marin, Poséidon. Pour connaître cette histoire, celle de la relation très tendue, conflictuelle puis apaisée entre la famille autochtone issue de cet Erichthonios et le dieu de la mer, il faudra descendre une pente de l'acropole, pas celle qui regarde vers l'agora, mais l'autre versant. la pente qui regarde vers la mer, vers le grand large, vers le lointain infini, toujours ouvert et changeant, vers l'aventure. Il faudra, sur cette pente, entrer dans l'enceinte de Dionysos, le dieu venu de loin, le dieu des changements, des illusions, du rire et des tristesses, et s'installer dans son théâtre. Euripide, la semaine prochaine, nous racontera cette lutte avec ce que nous pouvons encore lire de sa tragédie érectée. Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. La prise de son a été assurée par Mélissa Etroit. Et le mixage par Basile Bocquet. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesset. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. Bonne journée sur France Inter.